Alors ce matin, nous sommes le dimanche des rameaux. Alors j'ai pris un texte sur les rameaux et j'ai choisi celui de l'évangile de Jean. Donc si vous voulez prendre Jean 12, versets 12 à 23. Le lendemain, une foule nombreuse de gens venus de la fête, ayant entendu dire que Jésus se rendait à Jérusalem, prirent des branches de palmiers et allèrent au-devant de lui en criant « Hosanna ! Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, le roi d'Israël. » Jésus trouva un ânon et s'assit dessus, selon ce qui est écrit « Ne crains point, fille de Sion. Voici ton roi vient, assis sur le petit d'une ânesse. » Ses disciples ne comprirent pas d'abord ces choses, mais lorsque Jésus eut été glorifié, ils se souvinrent qu'elles étaient écrites de lui et qu'elles avaient été accomplies à son égard. Tous ceux qui étaient avec Jésus, quand il l'appela Lazare du sépulcre et le ressuscita des morts, lui rendaient témoignage. Et la foule vint au devant de lui, parce qu'elle avait appris qu'il avait fait ce miracle. Les pharisiens se dirent donc les uns aux autres, vous voyez que vous ne gagnez rien, voici tout le monde est allé après lui. Quelques Grecs du nombre de ceux qui étaient montés pour adorer pendant la fête s'adressèrent à Philippe de Bethsaïda en Galilée et lui dirent avec instance, Seigneur, nous voudrions voir Jésus. Philippe alla le dire à André, puis André et Philippe le dirent à Jésus. Jésus leur répondit, l'heure est venue où le Fils de l'homme doit être glorifié. Alors Jésus est ici un tournant dans son ministère. Il a parlé d'une heure, de son heure. On voit ça à plusieurs endroits. Par exemple, juste avant de faire son premier miracle à Cana, quand il a changé l'eau en vin, Jésus va dire à Marie, « Femme, qu'y a-t-il entre moi et toi ? Mon heure n'est pas encore venue. » Marie venait de lui dire, « Ils n'ont plus de vin. » Elle s'attendait peut-être à ce que il fasse un grand miracle, quelque chose où vraiment il manifeste qu'il est le Fils de Dieu, le Messie. Et bien qu'il ait fait quand même ce miracle, ce premier miracle, il va lui dire « Mon heure n'est pas encore venue. » Un petit peu plus loin, dans les évangiles, ce sont les frères de Jésus qui sont venus le voir et qui ont dit « Pars d'ici et va en Judée, afin que tes disciples voient aussi les œuvres que tu fais. Personne n'agit en secret. » Lorsqu'il désire paraître, si tu fais ces choses, montre-toi toi-même au monde. En fait, il le poussait en disant, mais manifeste-toi comme le Messie. Tu dis que tu es le Messie, vas-y. En fait, c'était un peu provocateur parce qu'il ne croyait pas en lui, dit la Bible. Et alors Jésus leur dit, mon temps n'est pas encore venu, mais votre temps est toujours prêt. Votre temps de croire, de vous repentir. Mon temps n'est pas encore venu. Ce n'était pas son heure, ce n'était pas encore le moment. Un petit peu plus loin encore, alors qu'il était dans le temple, il est écrit que les Juifs cherchaient à se saisir de lui, mais personne ne mit la main sur lui parce que son heure n'était pas encore venue. Son heure n'était pas encore venue. Là, de nouveau, la même idée. Et même si Jésus avait commencé un ministère qui était public, à 30 ans, il a commencé son ministère public, il n'était pas encore au moment où il allait s'affirmer pleinement comme le roi des Juifs, le Messie d'Israël, le Fils de Dieu. Mais ici, nous venons de lire au verset 23, « L'heure est venue où le Fils de l'homme doit être glorifié. » Ça y est, c'est son heure, c'est maintenant, le temps est venu. Et c'est pour cela qu'il va prendre le petit d'une ânesse, un ânon, et qui va entrer dans Jérusalem, au vu et su de tout le monde. L'âne, c'était la monture des rois, et là, la foule qui avait été émerveillée, qui avait entendu parler de ces miracles, le voyant entrer assis sur cette âne, dit, mais en fait, c'est lui, ça doit être lui. Et puis alors, ils coupent des branches de palmier, ils mettent des vêtements, et puis ils étendent et ils lui font un chemin. C'était comme une reconnaissance, là, oui, ça doit être le roi, le Messie d'Israël. Curieusement, on lit au verset 16, « Ses disciples ne comprirent pas d'abord ces choses. Mais lorsque Jésus eut été glorifié, ils se souvinrent qu'elles étaient écrites de lui et qu'elles avaient été accomplies à son égard. » Donc c'est un peu curieux, les disciples, eux, étaient à la ramasse, pour prendre une expression d'aujourd'hui. Ils ne comprenaient pas, et c'est plus tard où ils vont réaliser que toutes ces choses étaient écrites de lui. « L'heure est venue où le Fils de l'homme doit être glorifié. » Et j'aimerais qu'on se pose trois questions ce matin. La première question, c'est « Sommes-nous prêts à voir Jésus glorifié dans notre vie ?» Voir Jésus glorifié, voir sa gloire, le voir élevé dans nos vies, c'est quelque chose de désirable. Hein. On en a soif, on a envie, on voudrait normalement, hein. J'espère que vous le voulez. On chante des chants comme « Fraîche rosée, descendez sur nous tous » ou bien « Viens, Esprit du Dieu vivant ». Et donc c'est normal de vouloir que Dieu descende, que vouloir que Dieu agisse, qu'il bénisse, qu'il se glorifie dans nos vies. Qui n'aspire pas à voir des âmes sauvées? Qui n'aspire pas à voir ses prières exaucées? De voir que Dieu, eh bien, intervient. De voir Jésus glorifié, magnifié. Le prophète Ésaïe a dit « Oh, si tu déchirais les cieux, si tu descendais, les montagnes s'ébranleraient devant toi. » Et on connaît la puissance de Dieu. Et c'est normal de désirer, comme autrefois, de voir Dieu se manifester. Dans le livre des Actes, on lit Pierre et Jean qui ont été emprisonnés parce qu'ils étaient en train de prêcher, de témoigner de Jésus-Christ. Mais les Juifs, ne pouvant pas les garder trop longtemps, parce qu'ils n'avaient pas vraiment de motif pour les accuser, on finit par les relâcher. Et à ce moment-là, Pierre, Jean élevèrent la voix avec tous les disciples d'un même cœur, d'une même âme. Et on peut lire leur prière. Regardez, Actes 4, 24 à 31. « Lorsqu'ils l'eurent entendu, ils élevèrent à Dieu la voix tous ensemble et dirent « Seigneur, toi qui as fait le ciel, la terre, la mer, tout ce qui s'y trouve, c'est toi qui as dit par le Saint-Esprit, par la bouche de notre Père, ton serviteur David, pourquoi ce tumulte parmi les nations et ces vaines pensées parmi les peuples? Les rois de la terre se sont soulevés et les princes se sont ligués contre le Seigneur et contre son oint. En effet, contre ton saint serviteur Jésus que tu as oint, Hérode et Ponce Pilate se sont ligués dans cette ville avec les nations et avec les peuples pour faire tout ce que ta main et ton conseil avaient arrêté d'avance. Et maintenant, Seigneur, vois leurs menaces. Et donne à tes serviteurs d'annoncer ta parole avec une pleine assurance, en étendant ta main pour qu'ils se fassent des guérisons, des miracles, des prodiges, par le nom de ton saint serviteur Jésus. Quand ils eurent prié, le lieu où ils étaient assemblés trembla. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et ils annonçaient la parole de Dieu avec assurance. C'est une prière magnifique. Pleine de foi, pleine d'assurance. Et elle va trouver un exaucement immédiat, puisque ils vont sortir et puis ils vont se mettre à prêcher selon ce qu'ils ont demandé, avec une pleine assurance. Alors certes, c'était les apôtres, mais est-ce que Dieu ne veut pas répondre à notre prière si on fait ce même type de prière? Alors c'est certain que Dieu veut nous bénir, c'est certain que Dieu veut nous remplir du Saint-Esprit, c'est certain qu'il veut nous donner de l'assurance pour parler, c'est une évidence. Dieu veut élever son nom au travers de nos vies, par nos paroles, par nos actions, par tout ce que nous sommes, par nos pensées, aussi par le fruit qu'il veut que nous portions. C'est Jésus lui-même qui a dit... ne le prenez pas, mais il a dit dans Jean 15, il a dit « Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi je vous ai choisi et je vous ai établi afin que vous alliez et que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure afin que ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donne. » C'est une promesse merveilleuse quand même, hein? Une promesse merveilleuse, encourageante. Et donc c'est normal que de vouloir voir Dieu dans sa vie. C'est normal que de vouloir voir du fruit, voir son intervention, voir sa puissance, voir nos prières exaucées, voir la parole que nous portons retenue, porteuse de fruits. Dieu l'a voulu ainsi. Et même c'est ainsi que Dieu est glorifié, puisqu'il dit « C'est quand vous porterez beaucoup de fruits que alors mon Père sera glorifié. » Donc, voilà, le moyen de glorifier Dieu, c'est de cette manière. Dans notre texte de l'évangile de Jean, la foule avait entendu parler du miracle de Lazare, certains l'avaient vu, ils étaient éblouis par cette résurrection de Lazare. Alors ils ont étendu des branches, etc., devant le Messie. Mais c'était rien à côté de la résurrection du Fils de Dieu lui-même, de la résurrection de Jésus-Christ. Et on peut dire que Jésus allait bientôt se manifester, voilà, dans toute sa gloire, hein. Il allait être élevé et glorifié. Et je repose la question, mais sommes-nous prêts à voir sa gloire, hein? Est-ce que nous désirons voir sa gloire dans nos vies? Est-ce qu'on y soupire, hein? Moi, j'y aspire, hein? Et j'espère vous aussi. Regardez maintenant Jean 12, on reprend notre texte, versets 24 à 26. En vérité, je vous le dis, si le grain de blé qui est tombé en terre ne meurt, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Celui qui aime sa vie la perdra, et celui qui hait sa vie dans ce monde la conservera pour la vie éternelle. Si quelqu'un me sert, qu'il me suive, et là où je suis, là aussi sera mon serviteur. Si quelqu'un me sert, le Père l'honorera. Alors vous devinez ma deuxième question. Est-ce que nous sommes prêts à mourir à nous-mêmes? Est-ce que nous sommes prêts à mourir à nous-mêmes? Alors oui, Jésus allait bientôt être élevé, glorifié. Il allait même retrouver la gloire qu'il avait auprès du Père avant de descendre, de s'incarner dans une chair. Mais ce n'était pas sans passer auparavant par la croix. C'était nécessaire auparavant. Il fallait qu'il accepte de mourir, mourir à sa volonté propre, mourir comme un grain de blé. Il dit, si le grain de blé qui est tombé en terre ne meurt, il reste seul. En fait, il prend une vérité de la botanique ou de l'agriculture et il l'applique à lui et puis il l'applique à nous. Puisqu'il nous le dit à tous, hein. Et Dieu a fait en sorte que les choses soient ainsi. Pour qu'un grain de blé porte du fruit, il faut nécessairement qu'il se brise, qu'il se décharne, qu'il meure. Et alors, eh bien, la vie sort et il engendre du fruit. Si on garde la graine intacte, là j'avais dans la classe de l'autre côté, j'ai trouvé des épis de blé là, qu'Arnaud avait dû ramener je pense. Voilà, si on garde la graine intacte, on prend une graine et on la garde et on n'en fait rien, elle ne meurt pas, elle reste voilà, dormante et elle ne porte aucun fruit. Elle est là, toute petite et elle ne porte aucun fruit. Mais si elle meurt, alors elle porte beaucoup de fruits. C'est ce que Jésus nous dit et c'est une réalité. Et la glorification de Jésus-Christ ne pouvait arriver que s'il acceptait aussi la mort. Et la promesse du fruit dans l'agriculture, elle est aussi pour notre vie qui est offerte. Si on offre notre vie, alors il dit, elle porte beaucoup de fruits. Et ça, c'est une réalité. Quand la vie est offerte, alors eh bien la vie se multiplie, elle foisonne, comme un grain de blé. Un grain de blé peut en donner des dizaines. Jésus l'a dit dans sa parabole de la semence, hein. Il a dit ça peut donner 30, 60, 100 grains. Et c'est une réalité, hein, dans l'agriculture. Un grain peut en donner 100. Et on peut dire que Jésus, mourant sur la croix, n'a pas donné 100 grains. Il a donné des milliards de grains. Il a sauvé des milliers d'âmes et des millions. Et il continue à en sauver encore aujourd'hui. Sa mort a engendré du fruit, mais à multitude. La Bible parle d'hommes et de femmes de toute tribu, de toute langue, de toute nation, de tout peuple, de toute race. S'il meurt, alors il porte beaucoup de fruits. Est-ce que nous sommes prêts à mourir à nous-mêmes? On prie pour nos enfants. On prie pour nos familles. On prie pour ceux qui nous entourent. On voudrait que Dieu agisse, que Dieu intervienne. On a soif de le voir. On voudrait qu'il soit glorifié, qu'il descende des cieux. Sommes-nous prêts à mourir? Et c'est quelque chose de très concret. Par exemple, quand nous sommes dans nos petits trucs que nous aimons, les choses auxquelles nous sommes attachés, des choses qui nous passionnent, et il faut les sacrifier pour une cause qui est plus noble. Là, ça devient très très concret. Pour une cause familiale, pour une cause pour les frères et sœurs, ou bien pour une cause spirituelle que Dieu nous demande. Parfois, on est centré sur nous-mêmes et on ne voit plus ceux qui sont autour de nous. On ne fait plus attention à ceux qui sont autour de nous. J'ai par exemple mon petit plaisir de regarder telle émission ou de faire telle chose ou de dépenser pour tel loisir ou donner mon temps pour ceci ou pour cela. Voilà, c'est mon petit, ma petite chose à moi que je garde et on oublie l'essentiel. On oublie l'essentiel. Qu'est-ce que Dieu attend de nous ? Regardez Jean 12, versets 27 et 28. Jésus dit « Maintenant, mon âme est troublée. Et que dirais-je ? Père, délivre-moi de cette heure. Mais c'est pour cela que je suis venu jusqu'à cette heure. Père, glorifie ton nom. » Et une voix vint du ciel. « Je l'ai glorifié et je le glorifierai encore. » Et là, Jésus ne devait plus penser à lui-même. S'il avait pensé qu'à lui, alors ben jamais il serait allé endurer la croix, hein, c'est sûr. Hein. Pourquoi mourir quand on peut vivre pour soi, profiter ? Mais il a fait le choix de ne pas penser à lui-même. Il dit « Mais c'est pour cela, c'est pour cette heure que je suis venu. » C'est pour cela. Comment je peux demander d'être délivré du but de la raison même de ma venue ? Je suis venu pour cela. Et bien que Jésus n'avait pas une nature pécheresse comme la nôtre, il a quand même vécu un combat, une lutte intérieure hein, et un mouvement de recul face au sacrifice qui était devant lui. Mais finalement, c'est la raison et l'amour qui vont l'emporter. Et quand Dieu nous montre qu'on est complètement à côté de l'essentiel dans nos vies, dans ce qu'on est en train de faire, occupé peut-être à nos petits plaisirs égoïstes, eh bien il faut se raisonner soi-même et se dire « Mais pourquoi je vis ? Pourquoi vivons-nous ? Est-ce qu'on vit pour rester tout seul, pour être stérile dans nos petits trucs ? Ou est-ce qu'on vit pour un but qui est plus élevé ? Pourquoi vivons-nous ? C'est-à-dire pour le bien de ceux qui nous entourent, pour porter du fruit dans la vie de ceux qui nous entourent. Est-ce qu'on veut que le Fils de Dieu soit élevé, glorifié dans notre vie ? Paul disait « Je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. » Le Fils m'a aimé, le Fils s'est livré. Il a accepté de donner sa vie, d'être ce grain de blé qui meurt. Et qu'est-ce qu'il a fait ? Ben, il m'a sauvé. Parce qu'il m'a aimé, parce qu'il s'est livré, il m'a sauvé. Et nous aussi, on peut sauver. On peut apporter la vie. Si on se livre comme eh bien, le Fils s'est livré. Verset 25. Jean 12, 25, il dit... « Celui qui aime sa vie la perdra. Celui qui est sa vie dans ce monde la conservera pour la vie éternelle. » Et c'est quelque chose de paradoxal. On vit sur cette terre, on tâche de vivre mieux, on échafaude des plans, on a des projets, on anticipe. Hein. Mais en même temps, Jésus dit « Celui qui aime sa vie, il la perdra. » Tandis que celui qui est sa vie dans ce monde... alors, eh bien, il la conservera pour la vie éternelle. Et Dieu ne veut pas qu'on s'attache à ces choses de cette terre, à cette vie sur terre. Bien sûr, c'est normal d'anticiper, c'est normal de faire des projets, mais notre but, le but de notre vie, ne doit plus être exclusivement et principalement sur cette terre, orienté vers la terre. Comme on l'a chanté dans plusieurs cantiques, nos yeux doivent être levés vers le ciel. Et je pense... celui qui aime sa vie la perdra, ce verset, il nous parle à tous. Mais il parle aussi, je pense particulièrement, à ceux qui n'ont pas vraiment donné leur vie à Jésus-Christ. Qu'est-ce qu'un vrai chrétien ? C'est quoi un vrai chrétien ? C'est quelqu'un qui a d'abord commencé par se remettre en question. C'est quelqu'un qui a pris conscience que vivre uniquement pour la terre, ça n'a pas de sens. Si on ne vit que pour la terre, ça n'a pas de sens. C'est quelqu'un qui a compris intérieurement qu'il y a beaucoup plus que la matière. Il y a quelque chose d'éternel. Il y a une vie après la mort. Il y a plus que ce que l'on voit. C'est quelqu'un qui s'est mis à croire en Dieu et à dire « mais il faut que je le cherche ». Et finalement, c'est quelqu'un qui a trouvé Dieu en Jésus-Christ. Et Raymond nous l'a bien exposé. Dieu, c'est Christ. Et trouver Dieu, c'est trouver Christ. Et par Christ, eh bien, je trouve Dieu. C'est quelqu'un qui a compris que sans Jésus, il est impossible de rencontrer Dieu. Nul ne vient au Père que par moi. Puisque nous sommes pécheurs, puisque Dieu est saint, alors sans Jésus-Christ, on ne peut pas accéder au Dieu saint. C'est impossible. Alors, eh bien, ce quelqu'un s'est repenti et il a cru. Il a donné sa vie à Jésus-Christ. Le vrai chrétien, il n'a pas aimé sa vie au point de la garder pour lui-même en la saupoudrant d'un petit peu de religion. Vous savez, il y a plein de gens qui disent croire en Dieu et croire en Christ, mais finalement, ils ne sont pas vraiment pratiquants. Ils disent « non, je ne suis pas pratiquant ». Et ils ne vivent pas leur vie pour Dieu, ils vivent leur vie pour eux-mêmes. Mais ils saupoudrent d'un petit peu de religion, un petit peu de cantique, un petit peu de ceci, de cela. Et puis ils pensent que ça va. Mais ce n'est pas ça. Un vrai chrétien, c'est quelqu'un qui a donné sa vie. Parce qu'il n'a pas eu envie de la perdre. Alors il a donné sa vie. Il l'a offerte entièrement. Haïssant le péché, le mal, la convoitise, les désobéissances qui étaient dans son cœur. Alors Jésus dit, celui qui est sa vie dans ce monde, il la conservera pour la vie éternelle. Il sera pour toujours avec Dieu. Mais celui qui aime trop sa vie, pour demander pardon vraiment sur tous ses péchés, pour lui offrir et dire, oui, je te donne ma vie, je te donne mon cœur, non pas ma volonté, mais la tienne, alors eh bien, il va perdre sa vie. Sa vie ne se prolongera pas dans l'éternité. Il sera séparé de Dieu pour toujours. La Bible parle de la perdition. Est-ce que nous sommes prêts à offrir notre vie à Jésus? Est-ce que nous sommes prêts à mourir à nous-mêmes? Il faut passer par là pour voir Jésus et voir Jésus glorifié. On va lire maintenant versets 29 à 33. La foule qui était là et qui avaient entendu, disaient que c'était un coup de tonnerre, parce qu'ils avaient entendu la voix de Dieu. D'autres disaient, un ange lui a parlé. Jésus dit, ce n'est pas à cause de moi que cette voix s'est faite entendre, c'est à cause de vous. Maintenant a lieu le jugement de ce monde, maintenant le prince de ce monde sera jeté dehors, et moi, quand j'aurai été élevé de la terre, j'attirerai tous les hommes à moi. En parlant ainsi, il indiquait de quelle mort il devait mourir. De quelle mort devait-il mourir? On sait, il devait mourir de la mort d'un infâme, d'un criminel. Maintenant, comment s'est passé l'enchaînement des choses? Il n'est pas mort d'un coup d'épée, d'un centurion, et puis hop, effondré, et puis en quelques minutes, c'était terminé. Il n'est pas mort comme ça. Non, d'abord, il a été trahi par un ami, par un apôtre, par quelqu'un qui était proche de lui, son disciple, trahi. Il était vendu pour 30 pièces d'argent. Ce n'était pas grand-chose hein, pour Jésus-Christ. Hein. C'était ce qu'il valait au regard des hommes. Ensuite, on l'a arrêté dans le jardin de Gethsémané. Durant la nuit, on a produit des faux témoins qui ont commencé à l'accuser. Il a gardé le silence. Il est resté comme une brebis muette devant ceux qui l'attendent. Ensuite, on l'a frappé, on a craché sur lui, on l'a giflé, on l'a humilié. Ensuite, on lui a mis un manteau de pourpre, on lui a mis une couronne d'épines, et puis on s'est moqué de lui. Et puis quand la décision a été prise de le crucifier, on l'a fait battre avec des bâtons, avec des verges. Et puis finalement, eh bien, on l'a emmené pour être crucifié. Et puis on lui a planté ses clous, probablement des gros clous de 15 à 20 cm, dans les poignets, et puis dans les deux pieds joints. Et puis on l'a hissé, et on l'a laissé agoniser pendant plusieurs heures. ma troisième question est celle-ci. Est-ce qu'on est prêt à être persécuté? Sommes-nous prêts à être persécutés? Jésus a été glorifié, il a porté beaucoup de fruits. Mais il est aussi passé par le rejet de sa personne. Dans un psaume, je vous le lis, le psaume 22, on lit « Car des chiens m'environnent, une bande de scélérats rôde autour de moi, ils ont percé mes mains et mes pieds, je pourrais compter tous mes os. Eux, ils observent, ils me regardent, ils se partagent mes vêtements, ils tirent au sort ma tunique. » Dans un autre psaume, psaume 69, on lit « Ils sont plus nombreux que les cheveux de ma tête, ceux qui me haïssent sans cause. Ils sont puissants, ceux qui veulent me perdre, qui sont à tort mes ennemis. » Et Jésus a été rejeté, il a été haï. Et si on veut marcher avec Jésus et lui être entièrement fidèle, alors eh bien, c'est normal qu'on expérimente le même rejet, la même haine. Est-ce qu'on est prêt à être persécuté? Non pas qu'il faille aller chercher la persécution, hein, bien sûr. Quand on lit les Écritures, hein, quand il y a la persécution, Dieu encourage les disciples à fuir, à se protéger. Donc ce n'est pas question d'aller chercher la persécution. Mais la persécution est aussi quelque chose d'inévitable quand quelqu'un veut aller jusqu'au bout avec son Seigneur. Regardez Jean 15, 18 à 21. Jean 15, 18 à 21. « Si le monde vous hait, sachez qu'il m'a haï avant vous. Si vous étiez du monde, le monde aimerait ce qui est à lui. Mais parce que vous n'êtes pas du monde, et que je vous ai choisi du milieu du monde, à cause de cela, le monde vous hait. Souvenez-vous de la parole que je vous ai dite. Le serviteur n'est pas plus grand que son maître. S'ils m'ont persécuté, ils vous persécuteront aussi. S'ils ont gardé ma parole, ils garderont aussi la vôtre. Mais ils vous feront toutes ces choses à cause de mon nom, parce qu'ils ne connaissent pas celui qui m'a envoyé. » Et c'est quelque chose d'évident. Jésus n'est pas aimé par le monde et par les gens qui ne le connaissent pas, qui ne le voient pas. Jésus suscite souvent de l'antipathie. On n'aime pas le nom de Jésus. On le rejette. Alors tant que nous vivons cachés, nous vivons dans l'ombre, dissimulant notre réelle identité de chrétien, d'enfant de Dieu, alors on n'a rien à craindre. Tout va bien, hein? On est comme un grain de blé qui reste seul, tranquille, dérangé par personne. Tant que Jésus était dans sa famille à Nazareth, jusqu'à 30 ans, il a mené une vie tranquille, hein, paisible. On ne sait pas tout ce qui s'est passé, mais la Bible ne nous dit pas, mais il semble que il était encore caché. Il n'avait pas encore révélé sa véritable identité. Mais ensuite, à partir du dimanche des Rameaux, ça a commencé à son ministère à 30 ans, mais surtout à partir de ce dimanche des Rameaux, c'est allé crescendo jusqu'à la crucifixion. Mais il est rentré aussi sur le petit d'un âne dans Jérusalem. Et la foule a crié « Hosanna !» Et tout le monde était en train de le reconnaître de manière publique. Et c'est la même chose pour nous. Si on décide d'être ce que Jésus veut que nous soyons, des témoins de lui, alors probablement il va y avoir de la haine, il va y avoir du rejet, peut-être une forme de persécution. Est-ce qu'on est prêt à cela? Verset 20, on vient de lire là, Jésus a dit « S'ils m'ont persécuté, ils vous persécuteront aussi ». Mais il ajoute également, s'ils ont gardé ma parole, ils garderont aussi la vôtre. Et on voit les deux sont liés ensemble. Quand on se met à parler de Jésus, à partager sa foi, alors il y a deux choses qui arrivent en même temps. La persécution d'un côté, et puis le fruit de l'autre. Jésus promet. Il dit, ils garderont votre parole. Maintenant, bien sûr, convient de parler avec intelligence, avec sagesse, avec amour, et surtout avec la direction du Saint-Esprit. Pas question d'aller provoquer la persécution. Mais Dieu promet, ils garderont votre parole. Alors, on parle des persécutés qui vivent aux frontières de l'Europe, qui pour certains entrent, et même en Europe maintenant. Et c'est vrai qu'on doit prier pour nos frères et sœurs qui sont persécutés. Joseph ne manque pas de nous le rappeler. Il faut prier, prier. Souvenez-vous des prisonniers, il est écrit. Pour nous, on ne va pas connaître les mêmes sévices qu'eux connaissent à l'étranger, parce qu'on est quand même dans un état encore avec les droits de l'homme, ou certains droits en tout cas. Mais le rejet, il existera forcément si nous sommes fidèles. C'est obligatoire. C'est Dieu qui le dit. Or, tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. Tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. Et si quelqu'un vous hait aujourd'hui parce que vous aimez Jésus et vous marchez avec Jésus, c'est normal. Ça ne peut pas être autrement, c'est normal. Ne le regardez pas comme quelque chose d'extraordinaire, dit l'apôtre Paul. C'est dans la logique des choses. Puisqu'ils n'aiment pas Jésus, ils ne vous aimeront pas. Ailleurs dans l'évangile, Pierre se mit à lui dire, « Voici, nous avons tout quitté et nous t'avons suivi. » Jésus répondit, « Je vous le dis en vérité, il n'est personne qui, ayant quitté à cause de moi et à cause de la bonne nouvelle, sa maison, ses frères, ou ses sœurs, ou sa mère, ou son père, ou ses enfants, ou ses terres, ne reçoivent au centuple, présentement dans ce siècle-ci, des maisons, des frères, des sœurs, des mères, des enfants, des terres, avec des persécutions, et dans le siècle à venir, la vie éternelle. » Et le Seigneur nous dit qu'à le choisir, on n'y perdra pas. On n'y perdra pas. Certes, on va perdre des biens, on va perdre peut-être des membres de notre famille, des gens que nous aimons, qui pourront peut-être nous persécuter eux-mêmes. Mais Dieu dit, je vous donnerai au centuple. Et plus tard, eh bien dans le siècle à venir, la vie éternelle. Et on voit que choisir Jésus, c'est quelque chose de sérieux. C'est vraiment sérieux. C'est quelque chose qui engage. Et il y a des conséquences. Mais il est écrit, si le grain de blé meurt, il porte beaucoup de fruits. Alors, est-ce qu'on est prêt à mourir? Est-ce qu'on est prêt à livrer notre vie à Jésus? Est-ce qu'on est prêt à être rejeté, prêt à être persécuté? Si oui, alors on est prêt aussi à voir Jésus se manifester dans notre vie, apparaître dans notre vie. Et si on regarde dans l'Écriture, on voit qu'à chaque vague de persécution, beaucoup de fruits. Joseph, de temps en temps, nous relate un fait aujourd'hui d'une persécution à un endroit, mais aussi beaucoup de fruits. Et on voit que les deux sont liés. Le rejet, le fruit. Ça va ensemble. Pourquoi ? Parce que la vie spirituelle est un combat. Parce qu'il y a un ennemi. Et quand il y a du fruit, il y a du fruit qui va venir, ou du fruit qui sort, l'ennemi agit. Et lutte et essaye d'empêcher. Donc les deux vont ensemble. Mais là où les grains meurent, beaucoup de fruits. J'aimerais terminer avec Hébreux. Et on va lire les versets 12 à 3. Il est dit, nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins. À noter que les témoins, si vous lisez les versets qui précèdent, c'est aussi des témoins qui ont souffert, qui ont été beaucoup rejetés. Il dit, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte, ayant les regards sur Jésus qui suscite la foi et l'amène à la perfection. En échange de la joie qui lui était réservée, il a souffert la croix. Il a méprisé l'ignominie et il s'est assis à la droite du trône de Dieu. Considérez en effet celui qui a supporté contre sa personne une telle opposition de la part des pécheurs, afin que vous ne vous lassiez point l'âme découragée. Et il faut courir, courir avec audace, courir avec courage, les yeux vers Jésus, dans la nuée des témoins d'autrefois, acceptant de souffrir pour Jésus, même s'il le faut, méprisant l'ignominie de ce monde et ne se décourageant pas s'il y a de l'opposition. Et j'aimerais qu'on retienne cette parole. S'ils ont gardé ma parole, ils garderont aussi la vôtre. Très encourageant.